Chapitre 19.
Il y a d'autres survivants!
C'est Pierre qui annonce la bonne nouvelle à Alice et à Simon, alors qu'ils se trouvent dans la salle dite des radars.
J'ai identifié au-dessus de la France deux sources d'activité humaine bien nettes.
Les deux autres le regardent, surpris. La vie a suivi son cours dans l'ISS, mais les réserves s'épuisent et les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour les trois astronautes, qui savent que leurs jours sont comptés.
J'examine encore la France, car je garde toujours l'espoir de retrouver ma femme et mes enfants.
Se justifie l'ancien commandant.
Et qu'est-ce que tu as trouvé ? Des jaillissements d'émissions électromagnétiques, c'est-à-dire des endroits où l'électricité est utilisée par des machines qui produisent des ondes. Grâce à ces capteurs ultra-sensibles, l'antenne de l'ISS peut capter ces champs électromagnétiques même s'ils sont infimes.
Comment savoir si cette énergie est le fruit d'une action humaine délibérée ? S'interroge Alice. Je veux dire, ce sont peut-être juste des appareils électriques qui fonctionnent automatiquement sans que qui que ce soit les active.
Toutes les machines réclament de l'entretien pour fonctionner, a fortiori celles qui sont branchées sur des systèmes électriques. De plus, ces signaux sont récents, je les avais jamais repérés avant.
D'où sont-ils émis ? Demande-t-elle.
Le premier que l'antenne a relevé le plus fort est dans le centre de Paris, au niveau de la station du métro Châtelet-Léal.
Comment l'expliques-tu ?
À mon avis, une communauté de survivants a pu s'installer dans cette station souterraine, parmi les plus grandes et les plus profondes.
Et les autres points d'émission ? Dit Simon.
J'en ai repéré plusieurs un peu partout sur la planète, dont un dans les Alpes, dans l'ancienne station de Val Thorens. La région a pu être épargnée car elle est protégée par des montagnes qui forment une sorte de mur protecteur contre les vents porteurs de radiation. En fait, tout comme pour Tchernobyl, les bombes atomiques ont généré de gros nuages radioactifs dispersés par les vents. C'est le hasard de leur trajectoire qui fait que des zones sont touchées ou non.
Donc, la station de métro Châtelet-Léal à Paris et Val Thorens aurait pu échapper aux radiations ? Dit Simon.
C'est possible, oui. La première parce qu'elle est située en sous-sol, et la seconde parce qu'elle est en altitude.
Alice affiche un grand sourire. Après la réussite de survie des hybrides, c'est une autre sacrée bonne nouvelle.
En fait, si je cherchais ces sources d'émissions électromagnétiques, c'est aussi pour une autre raison moins réjouissante, déclare Pierre. Nous arrivons au bout de toutes nos réserves.
On peut certainement encore tenir avec moins d'eau et de nourriture, objecte Simon.
Certes, mais pas avec moins de carburant. Nous serons bientôt à sec. La station descend progressivement et nous ne pouvons plus la remonter pour la garder dans la bonne orbite. Rappelez-vous, nous ne devons pas descendre en dessous des 410 km, sinon la force gravitationnelle va nous attirer d'un coup vers la Terre et l'ISS va s'écraser.
Selon toi, de combien de temps est notre répit ?
Quelques heures, tout au plus.
Tu as vraiment attendu le dernier moment pour nous en parler ? S'agace Simon. Est-ce qu'au moins on est sûr que la navette de secours fonctionne ?
Je l'ai vérifié. Elle avait besoin de plusieurs réglages et réparations. J'y ai travaillé et désormais, oui, on peut dire qu'elle est opérationnelle.
Alors, ne traînons pas. On prépare tout et on rentre à la maison, décide Alice. Elle détache un des caissons anti-choc et anti-radiation sanglés à la paroi et y installe Hermès, Poséidon et Hadès, plus l'imprimante et les fioles contenant les gamètes des trois espèces pouvant être hybridées.
Voilà. Dans ce caisson anti-choc, il y a tout, dit-elle. Nos trois bébés, tout le matériel et les composants qui nous permettront d'en fabriquer d'autres.
Simon vérifie les tenues et les casques de sortie conçus pour protéger des radiations. Il trouve aussi un compteur GGR portable.
Avec ces combinaisons étanches et ce matériel de survie, dit-il, on devrait pouvoir tenir.
De toute façon, je surveillerai le compteur.
Reste-t-il un peu de nourriture et d'eau ?
Demande Alice à Pierre. D'ici notre arrivée, nous aurons épuisé toutes les réserves. Il faut espérer trouver de quoi subvenir à nos besoins sur Terre.
Et si tout a été irradié ? Fait remarquer Simon.
Dans ce cas, évidemment, ce sera plus délicat. Il faudra compter sur notre débrouillardise,
reconnaît Pierre.
Pour filtrer l'eau des égouts, chasser le rat et le pigeon irradié, ironise Simon.
Alice soupire, puis déclare « Faisons confiance à notre propre capacité d'adaptation. Après tout, nos ancêtres ont toujours trouvé des solutions. Sinon, nous ne serions même pas nés. »
« Dans ce cas, pas la peine d'attendre. Partons !» dit Pierre. « Dans une heure, ça vous va ?»
Alice et Simon approuvent. Pierre insiste.
« Ne vous chargez pas trop, juste le strict nécessaire. »«
Je prends quand même ça !»
signale Simon en montrant son pistolet.
« On ne sait jamais. »
Les trois astronautes se préparent sans perdre une minute. Ils enfilent des combinaisons, récupèrent des protections anti-radiation qu'ils placent dans un caisson, puis prennent place dans la navette d'évacuation d'urgence. Pierre s'installe aux commandes. À ce moment, une grande secousse ébranle l'ISS.
« On décroche !»
s'exclame Pierre.
« Quoi ? Mais je croyais qu'on avait encore du temps !»
s'affole Alice.
« Je le croyais aussi, mais la gravité nous aspire !»
explique Pierre. Le château dans le ciel, en manque de carburant, glisse lentement vers la Terre. Le commandant règle plusieurs appareils sur le tableau de bord, actionne différents boutons, puis lance le compte à rebours.
« 10 !»
L'ISS continue sa chute. Alice serre fort la main de Simon. Son autre main se crispe sur la poignée de la précieuse mallette.
« 9 !»
Elle se penche vers Simon et lui chuchote à l'oreille.
« Il faut que tu saches que... »
Ce qu'elle prononce est couvert par le bruit des réacteurs qui viennent de se mettre en marche.
« 8 !»
Les trois astronautes voient avec effarement la Terre qui se rapproche alors que les vibrations augmentent.
« Tu as dit quoi ?»« 7 !»«
Je suis... »«
6 !»
Le frottement de l'air dû à l'entrée dans les couches denses de l'atmosphère provoque un vacarme épouvantable.
« Tu es quoi ?»
hurle Simon.
« 5 !»«
Encre ! Quoi ?»«
4 !»
Alice surmonte le bruit en hurlant à son tour.
« Je suis enceinte !»
3 !»«
Quoi ? Mais je croyais que ton endométriose empêchait toute grossesse !»«
2 !»
« Moi aussi, je le croyais. Mère Nature en a décidé autrement. Tu vas être père !»
Une émotion indescriptible envahit Simon. Sa gorge se noue. Il déglutit, puis un grand sourire éclate sur son visage. Il ferme les yeux pour apprécier encore plus cette seconde précise. Alice serre encore plus fort la main de son compagnon.
Un !
Pierre actionne la manette qui permet de libérer la navette des crochets qui la retiennent. Plusieurs claquements métalliques secs s'enchaînent.
Zéro, mise à feu !
Annonce le militaire. Et il appuie sur le bouton rouge. Au vacarme général de l'ISS en train de chuter, s'ajoute le bruit caractéristique des tuyères de la navette. L'engin argenté se détache de la station spatiale internationale. Par les vitres de droite, les trois astronautes voient le château de métal qui les a hébergés s'éloigner, alors que, dans celle de gauche, la Terre approche. Alice remarque que Pierre surveille Simon. Ces deux hommes ne s'apprécieront jamais. C'est comme s'ils étaient nés pour être rivaux.